Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour vous présenter le monde aujourd'hui en direct de Washington depuis le studio 8 de la Voix de l'Amérique. Au micro, Nanit Talani. À la une de l'actualité de ce lundi 14 janvier 2024, direction Côte d'Ivoire où se joue la CAN, nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux sur place. L'opposition comorienne monte au créneau contre des bourrages d'urnes présumés lors de la présidentielle. Pluie diluvienne en Tanzanie, un glissement de terrain tue des mineurs. Plus de 60 Palestiniens tués à travers la bande de Gaza dans des bombardements israéliens. Pékin menace de punir Taïwan si elle déclare son indépendance. Et puis dans la partie magazine, nous verrons comment le troc entre des populations du Rwanda et de la Tanzanie garantit la sécurité alimentaire tout en favorisant la coexistence pacifique. En attendant, voici le journal. Ouvrons cette édition du Monde aujourd'hui par le journal de la CAN, direction Abidjan. Pour retrouver nos envoyés spéciaux, Bagassi Koura et Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous, bienvenue ici dans la capitale économique ivoirienne d'où Bagassi Koura et moi, Yakuba Ouedraogo, vous présentons ce journal de la CAN. Le champion en titre, le Sénégal, fait son entrée en lice ce lundi dans la poule C, dans un derby face à sa voisine de la Gambie, à 14h temps universel au stade Charles Konabani de Yamoussoukro. Kalidou Koulibaly, capitaine du Sénégal.
On sait que en gagnant cette deuxième Coupe d'Afrique d'affilée, on rentrera dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Et c'est ce qu'on veut, écrire l'histoire du Sénégal, mais aussi écrire l'histoire de l'Afrique. Et je pense que en mettant ça dans nos têtes, on va arriver avec une humilité qui va nous permettre de faire face à toute adversité.
Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions de la Teranga, pour Bakary Cissé, journaliste sénégalais que nous avons joint à Yamoussoukro, les Lions doivent s'attendre à un match compliqué.
Ça ne sera pas un match très facile et les joueurs eux-mêmes le savent. Aliou Cissé est obligé de revenir à l'orthodoxie de son système qui voudrait qu'il évolue en 4-3-3.
Bakary Cissé, journaliste sénégalais, à suivre aussi ce lundi le Cameroun qui fait face à la Guinée et l'Algérie qui débute sa compétition devant l'Angola. Cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations bat son plein depuis samedi dernier entre la Côte d'Ivoire qui a bien entamé sa compétition, le Nigeria et l'Égypte accrochés d'entrée, le Ghana battu, cette CAN s'annonce indécise. Le point des matchs de la première journée des poules A et B avec Bagassi Koura.
Trois grosses sensations dimanche, les requins bleus du Cap-Vert ont dévoré les Black Stars du Ghana, quatre fois champion d'Afrique, 2-1. Les Cap-Verdiens prennent ainsi la tête de la poule B devant l'Égypte, septuple championne tenue en échec par le Mozambique, 2-2. Un peu plus tôt, c'est le Nigeria qui a concédé le nul, 1-1 face à la Guinée équatoriale. Et samedi, en ouverture, devant près de 37 000 spectateurs dans un stade d'Ebimpe, qui a une capacité de 60 000 places, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont donné le ton de cette 34e édition de la CAN, 40 ans après la dernière organisée par les Ivoiriens en 1984. Sous pression, ils ont vite trouvé le chemin des filets dès la 4e minute de jeu par Seko Fofana pour finalement battre les Jurtos de la Guinée-Bissau 2-0.
Je pense que c'est, il faut être réaliste. On est dans une compétition où chacun a son coup à jouer. Donc il n'y a pas d'équipe fondue, il n'y a pas d'équipe faible. Il ne faut pas manquer d'occasion de but. Je pense que c'est le plus important. Et il faut continuer de pousser la Guinée.
Ah, je suis heureuse, j'ai aimé. Ils ont fait l'effort, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. 2-0, c'est pas mal. On va les encourager.
Non, ils ont mérité cette victoire. Je suis vraiment content. On doit les encourager pour que le prochain match puisse battre plus de records.
Je préfère voir une équipe ascendante qui ne prend rien à autre qui descend. Donc je pense qu'il y a des corrections à faire, il y a des réglages à faire. C'est pourquoi il dit dès qu'on a une occasion, il faut profiter et puis régler certaines choses.
Parmi les invités au stade d'Ebimpe, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis Bah.
C'était extraordinaire pour moi et pour toute notre équipe ici à l'ambassade des États-Unis et aussi pour tous les Américains, pour connaître la Côte d'Ivoire, pour connaître la CAN, pour connaître l'Afrique. En fait, c'est clair qui va gagner. Allez, les éléphants.
Dans le cadre de cette CAN, les États-Unis ont envoyé des stars de basketball et de football ici en Côte d'Ivoire pour un partage d'expériences. Crystal Dunn, joueuse de football du club de Gotham FC et de l'équipe nationale féminine américaine, championne du monde 2019 et deux fois championne olympique, a suivi le match inaugural Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau.
Je suis évidemment du milieu du football. J'aime vraiment le jeu quand je sens que les équipes sont en première ligne. On avait l'impression qu'elles n'avaient pas peur et qu'elles étaient vraiment portées par le poids du pays et par les fans dans les tribunes. C'était donc merveilleux à regarder. Marquer deux buts, évidemment, lors du match d'ouverture, c'est un exploit incroyable parce que nous connaissons la Coupe d'Afrique des Nations.
Après des débuts compliqués pour certaines équipes annoncées favorites, cette CAN Côte d'Ivoire 2023 promet des surprises.
C'est la fin de ce journal de la CAN. Merci à vous de l'avoir suivi. Yacouba Ouidraogo, Bagassi Koura, Abidjan, pour VOA Afrique.
République démocratique du Congo, les résultats partiels des législatives proclamées dimanche dessinent une majorité à l'Assemblée nationale pour les partis soutenant le président fraîchement réélu, pour autant qu'ils confirment leur alliance avec Félix Tshisekedi. L'UDPS Tshisekedi, le parti présidentiel, remporte à lui seul 69 sièges, selon la CENI. Le principal parti d'opposition, Ensemble pour la République, de Moïse Katumbi, arrivé deuxième à la présidentielle, a obtenu moins de 20 sièges. Le PPRD de l'ex-président Joseph Kabila n'obtient aucun siège, ses cadres ayant décidé de boycotter les élections. Le parti SID de Martin Fayulu n'obtient aucun siège non plus. L'opposant avait demandé aux membres de son parti de ne pas se présenter. La cerne du prix Nobel Denis Mukwege ne sera pas représentée dans la future Assemblée nationale, son parti n'ayant pas atteint le seuil de voix nécessaire. L'opposition aux Comores a dénoncé hier une fraude électorale et des bourrages d'urnes lors de l'élection présidentielle, alors que le chef de l'État sortant, Azali Assoumani, a exprimé sa confiance en une victoire. Le point avec Jacques Aristide.
Comme en 2019, nous assistons à une fraude électorale d'Azali Assoumani en complicité avec l'armée, a déclaré le candidat d'opposition Mouigni Baraka Saïd Soilihi au nom des cinq rivaux d'Azali au scrutin. Il y a eu bourrage d'urnes dans plusieurs localités, a-t-il ajouté, avant de dire que les Comoriens n'ont pas eu le choix de décider du leader qui va présider à leur destinée. Le directeur de campagne du président sortant a fustigé l'opposition qui, d'après lui, fait montre de petit esprit complotiste. Houmed Mamsedie a également réfuté toute fraude électorale. Après avoir voté, Azali Assoumani, qui brigue un troisième mandat consécutif, s'est dit confiant de l'emporter dès le premier tour. Le chef de l'État, âgé de 65 ans, a attribué le manque de participation au mauvais temps. Le dépouillement a débuté dans la soirée d'hier, parfois à la bougie et sous une importante surveillance policière. Les résultats du premier tour doivent être publiés dans la semaine.
Plus de 21 mineurs sont morts dans un glissement de terrain dans une mine du nord de la Tanzanie, a annoncé hier la présidente de ce pays, durement éprouvée par des pluies diluviennes liées au phénomène El Niño. Plus de détails avec Gabi Dorsil.
Ses compatriotes tanzaniens étaient des mineurs artisanaux essayant de gagner de quoi vivre pour eux et leur famille et contribuant au développement du pays, a déclaré la présidente Samia Suluhu Hassan dans un message diffusé sur X, anciennement Twitter. Nos agences de défense et de sécurité, en coopération avec les autorités régionales, poursuivent leurs efforts pour trouver d'autres corps toujours coincés sous les débris, a encore dit Mme Hassan, sans préciser combien de mineurs sont portés disparus. La présidente n'a pas précisé quand le drame s'est déroulé. La Tanzanie et d'autres pays d'Afrique de l'Est, tels que le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie, sont confrontés depuis plusieurs semaines à des pluies torrentielles liées au phénomène météorologique El Niño, qui ont déplacé plus de 1 million de personnes en Somalie et fait plus de 300 morts dans la région.
Au Soudan, au moins 7 civils ont été tués hier dans des bombardements de l'armée de l'air dans l'état du Nil blanc, rapportent des militants pro-démocratie. Abdourahmane Dia nous en dit plus.
Le drame a eu lieu dans le village d'Al-Koutaina, selon le comité de résistance, une organisation locale qui gère l'entraide entre habitants. Hier, le porte-parole de l'armée soudanaise a lui accusé les redoutées forces de soutien rapide d'avoir brûlé l'église évangélique de Wad Madani dans l'état d'Al-Jazira sans faire de victimes. Déclenchée le 15 avril de l'année dernière, la guerre entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires menés par le général Mohamed Hamdan Dagoulou a fait plus de 13 000 morts selon une estimation très prudente de l'ONG Armed Conflict Location and Event Data Project. Le conflit qui fait rage donc depuis 9 mois a poussé un demi-million de personnes à trouver refuge plus au sud dans cet état agricole jusqu'à récemment épargné par les violences. Les efforts diplomatiques pour des négociations de paix, notamment des États-Unis, de l'Arabie Saoudite et plus récemment de l'IGAD, le bloc régional de l'Afrique de l'Est, ont jusque-là échoué.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Taïwan exhorte la Chine à faire face à la réalité après l'élection aux fonctions de président du souverainiste Lai Ching-te, tandis que Pékin avertit que toute initiative en faveur de l'indépendance de cette île serait sévèrement punie. Les précisions de Lionel Gaïma.
Si quiconque sur l'île de Taïwan a l'intention d'aller vers l'indépendance, il tentera de diviser le territoire chinois et sera assurément sévèrement puni par l'histoire et la loi, a mis en garde le chef de la diplomatie chinoise. Il n'y a qu'une seule Chine et Taïwan en fait partie. Taïwan n'a jamais été un pays et cela ne le sera certainement pas à l'avenir, a ajouté Wang Yi lors d'une conférence de presse hier au Caire, en Égypte, où il a entamé une tournée africaine. Pour sa part, le ministère taïwanais des Affaires étrangères demande à la Chine de respecter la victoire de Lai Ching-te à la présidentielle de samedi. Le Parti communiste chinois décrit le vainqueur comme un dangereux séparatiste. Le ministère taïwanais appelle Pékin à faire face à la réalité et à renoncer à réprimer Taïwan, qui, pour son nouveau président, est de facto un territoire indépendant. À Washington, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a salué Lai Ching-te, de même que les Taïwanais, pour leur solide système démocratique, un message aussitôt fustigé par la Chine. « Nous ne soutenons pas l'indépendance », a quant à lui tempéré le président américain Joe Biden.
L'administration américaine du président Joe Biden dénonce l'obstruction du gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, après la noyade de 3 migrants, une femme et 2 enfants, à la frontière avec le Mexique. Les autorités du Texas ont empêché la police des frontières de leur porter assistance, a accusé hier dimanche un porte-parole de la Maison-Blanche, Angelo Fernandez-Hernandez. Le ministère de la Justice accuse le gouverneur d'empêcher la police fédérale des frontières d'accomplir sa mission en bloquant son accès à un secteur clé de la frontière avec le Mexique, ce que les autorités texanes contestent. Plus de 60 Palestiniens ont été tués à travers la bande de Gaza dans des bombardements israéliens intenses menés dans la nuit de dimanche à ce lundi, d'après un communiqué du gouvernement du Hamas. Selon le bureau de presse de ce gouvernement, les frappes et les bombardements d'artillerie ont visé les villes de Khan Younes et Rafah dans le sud de la bande de Gaza, où l'armée israélienne concentre désormais son offensive, ainsi que d'autres zones du territoire assiégé. La Corée du Nord a annoncé ce lundi avoir réussi à tirer un nouveau type de missile balistique équipé d'une ogive hypersonique manœuvrable, une nouvelle avancée technologique en matière d'armement. Ce tir a été détecté par l'armée sud-coréenne dimanche. L'essai était destiné à vérifier les capacités de vol, planer et de maniabilité ainsi que la fiabilité du nouveau moteur à combustible solide, à poussée élevée et à étages multiples nouvellement développés, a expliqué l'agence de presse d'État nord-coréenne, Xena.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani de retour pour notre section magazine. Au Tchad, le président de transition, Mahamat Idriss Déby, a été désigné candidat du MPS, le Mouvement patriotique du salut, pour la prochaine élection présidentielle qui se tiendra dans 10 mois. La décision du parti de son défunt père a été prise à l'issue de son 11e congrès tenu ce week-end à N'Djamena. André Code Madingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Mahamat Idriss Déby et le conseil militaire de transition avaient annoncé qu'ils allaient rendre le pouvoir aux civils après 18 mois de transition. Mais en août 2022, les participants au dialogue national inclusif et souverain lui ont donné la possibilité de se présenter aux élections présidentielles. Mahamat Zenbada, désigné lui aussi pour la deuxième fois secrétaire général de la dite formation politique, demande aux militants du MPS de se mobiliser derrière leur candidat pour une victoire à tous les postes électifs.
C'est un engagement que nous avons pris. Donc chacun d'entre nous doit amener 30% de ce qu'il a pour Mahamat Idriss Déby. Pour moi, je l'appellerai mon fils, mais il est doté de certaines choses que nous n'avons pas. Donc cet homme peut nous conduire à bon port. Alors ensemble, tous levons-nous et soutenons-le jusqu'au bout.
Une désignation diversement appréciée dans la rue de N'Djamena.
Nous ne sommes pas surpris pour que le MPS confirme le président de transition comme candidat. Parce que les résolutions du dialogue nous ont montré clairement que après la mort du père, c'est le fils qui doit rester.
Ça fait très longtemps que les Tchadiens veulent le changement. Mais aujourd'hui, la dynastie s'est installée au Tchad. La loi l'autorise à donner sa candidature. Pourquoi? Parce que c'est les Tchadiens eux-mêmes qui ont cautionné depuis le début même de cette transition. Mais il faudrait que cette élection qui se pointe à l'horizon, ces élections doivent être crédibles et transparentes. Mais lorsque les gens vont utiliser les voies et moyens pour pérenniser cette dynastie au pouvoir par la force, c'est là où vous allez voir le Tchad sera sombré dans le chaos.
Pour l'ancien chef de file de l'opposition, Félix Nyalbé Romadongar, le général Mahamat Idriss Déby n'a pas besoin de la bénédiction du parti de son défunt père, puisqu'il a été déjà investi candidat à la prochaine élection présidentielle par le dialogue politique de 2022.
En acceptant d'être investi comme candidat du MPS, il se débarrasse ainsi des partis politiques qui avaient soutenu la transition et il veut pérenniser la malgouvernance que les Tchadiens ont décriée depuis plus de 30 ans. Et c'est le système qui a mis le pays vraiment en faillite, je peux le dire. Le népotisme, le clientélisme, la corruption, l'incompétence. Il devient l'héritier de tout ça.
Le président du parti, les patriotes Mansour Koursami, estime lui aussi que c'est une confiscation dynastique du pouvoir et la France qui avait déclaré qu'il ne soutiendra pas le plan de la dynastie au Tchad est interpellé.
Ce qui s'est passé hier ici, la nomination et l'acceptation de Moussa Mamad, sa candidature aux prochaines élections, est la définition parfaite de la transmission dynastique de pouvoir. Donc, nous attendons avec impatience de voir comment ces pays occidentaux vont concilier leurs valeurs cardinales de la démocratie avec ce système antidémocratique qui se construit ici au Tchad.
Pour l'instant, aucune réaction du côté du parti Les Transformateurs qui vient d'être associé à la gestion de la transition et le candidat investi en question ne s'est pas encore prononcé. André Koduma Djingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad. Le personnel permanent du secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais est en grève pour réclamer le paiement de ses arriérés de salaire ainsi que ses droits. L'information anime depuis quelques jours les débats sur la toile gabonaise. Le malaise au sein de la plus ancienne formation politique au pouvoir du Gabon se déporte sur la place publique. Le PDG traverse en effet une zone de turbulence après la chute du régime incarné par les Bongos. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzi.
Vent debout, les employés de l'administration du Parti démocratique gabonais exigent du secrétariat exécutif de leur parti plus de 3 mois de salaire, y compris des droits légaux.
Quelqu'un peut pas dire ça en l'argent. Nous,
Nous, pendant la campagne électorale, on n'a rien eu. On n'a pas mangé. Parce que dans les quartiers, ils se disent qu'on s'est engraissé. On n'a rien eu. C'est 150 000.
Réagissant à cette situation, Geoffroy Fumbula Libeka Makosso, acteur de la société civile, par ailleurs vice-président de l'Assemblée nationale de transition, a écrit sur sa page Facebook, je le cite, « Au regard des démissions en cascade au PDG, il serait mieux pour ce parti de vendre aux enchères leur récépissé et procéder au règlement de son personnel en grève. Une boutade contre un parti devenu presque l'ombre de lui-même après la chute du pouvoir d'Ali Bongo Ondimba. Les militants, surpris par le coup de force militaire du 30 août dernier, en appellent à la magnanimité du chef de la transition. »
Ne nous laisse pas parce que nous sommes venus chercher le bout de pain au PDG. C'est parce qu'on n'avait pas d'autre travail ailleurs. Si on avait trouvé notre travail ailleurs, on n'allait pas venir ici.
Derrière cette détresse collective des gardiens du temple se joue désormais la survie des milliers de militants du Parti démocratique gabonais, ex-parti au pouvoir.
Depuis cette fin d'année, nous sommes en situation difficile au plan financier.
Signe du déclin, certains cadres du parti démissionnent. Il y a quelques semaines, le PDG a mis en retraite une trentaine d'agents sans payer la totalité de leurs droits. Aujourd'hui, ce sont plus d'une centaine d'employés du siège qui vivent dans la précarité.
Les gens ont été expulsés des maisons. Est-ce qu'il faille que nous partions de chez nous, là où on est en train de nous chasser, venir s'abriter ici au siège?
La direction du Parti démocratique gabonais ne répond toujours pas aux revendications salariales de son personnel. Créé le 12 mars 1968 par Omar Bongo, le PDG a régné sur le Gabon durant plus de 50 ans avant de s'effondrer le 30 août à la suite d'une confusion électorale. Malgré ce contexte de crise interne, le parti prépare activement son congrès. Certains cadres proposent de le débaptiser alors que d'autres estiment que son nom est un héritage à conserver. Libreville, Ismaël Obionze pour VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Cameroun, l'état des lieux de l'inclusion des personnes vivant avec un handicap vient d'être au centre d'une semaine d'activité. Le gouvernement s'est engagé à réactualiser les statistiques sur cette catégorie de personnes afin de mieux orienter leur prise en charge, car la politique nationale d'inclusion adoptée en 2010 n'a pas encore satisfait toutes les attentes. À Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap.
L'intégration socio-professionnelle des personnes vivant avec un handicap est encore un défi majeur au Cameroun. Coco Bertin-Boa est un handicapé visuel. Il dirige le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, CELJAC.
Les nombreuses personnes handicapées qui aujourd'hui ont eu des formations intéressantes et qui ont atteint un niveau scolaire appréciable puissent trouver de l'emploi, c'est une de nos grandes attentes.
Le gouvernement est aussi attendu sur la question de la formation des enseignants pour une mise en œuvre effective de l'inclusion dans le secteur éducatif. Pierre Tchoufak, directeur d'une école primaire inclusive à Yaoundé.
Au Cameroun, il n'y a pas encore d'école qui forme des enseignants spécialisés pour les autistes et bien d'autres. Mais l'État camerounais a quand même amorcé ce processus-là, si bien que déjà, au niveau des écoles de formation, on est en train d'introduire des modules qui parlent de ces spécificités-là.
Lors du lancement officiel de la campagne de plaidoyer et de mobilisation sociale pour le handicap, le gouvernement a présenté les mesures envisagées en vue de promouvoir et protéger les personnes vivant avec un handicap au Cameroun. Pauline Irène Nguenet, ministre des Affaires sociales.
Il est question de réunir tous les acteurs et de pouvoir les outiller, de former les travailleurs sociaux et les autres acteurs qui interviennent dans la chaîne pour une meilleure prise en charge de nos cibles, c'est-à-dire les personnes handicapées. La question d'accessibilité dans les bâtiments publics, la question de la santé, la question de l'éducation inclusive.
L'année dernière, 360 écoles primaires publiques ont été transformées en écoles inclusives. Mais toutes les commodités ne sont pas encore prises pour leur bon fonctionnement. Guibert Defofosso, adaptateur et transcripteur de documents noirs en braille, au Centre de formation pour personnes handicapées, Prom Handicam.
Nous accompagnons ces élèves-là, d'abord ceux de l'école primaire, ensuite ceux du secondaire et du supérieur, en mettant à leur disposition les manuels ordinaires, mais en écriture braille. Quand il faut des évaluations mensuelles ou bien séquentielles, nous intervenons, nous devons recevoir les épreuves 3 jours francs avant le passage, et puis nous transcrivons et sous pli fermé, nous réacheminons dans les différents établissements, y compris aussi notre école.
À l'occasion de la semaine de la solidarité nationale et de l'entrepreneuriat social, le gouvernement a annoncé l'élaboration d'un répertoire national actualisé des personnes vivant avec un handicap au Cameroun pour une meilleure prise en charge effective. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Les populations de la province tanzanienne de Kagera et celles de l'est du Rwanda pratiquent parfois un commerce de troc. Qu'est-ce qui fonde cette pratique traditionnelle à l'heure où la monnaie domine les échanges commerciaux? Jean Damascène Manishiwe, notre correspondant au Rwanda, est allé à la rencontre de ces populations.
Au bord du lac Kibare, en point de vente à la frontière rwando-tanzanienne, des citoyens tanzaniens chargent des marchandises sur leurs bateaux avant de reprendre le chemin du retour en Tanzanie. Ce point de vente a une grande particularité. Parfois, le commerce de troc est pratiqué entre Tanzaniens et Rwandais. La population locale justifie cette pratique traditionnelle.
Si nous rentrions chez nous avec la monnaie rwandaise, nous aurions du mal à trouver un bureau de change. Il nous faudrait quitter notre région de Karagwe et aller à la frontière. Et de chez nous à la frontière, c'est très loin. C'est pourquoi nous préférons échanger des biens, faute de quoi nous ne saurions pas acheter les marchandises à revenir vendre ici.
Ce marché nous a beaucoup aidés, surtout que cette région souffre beaucoup de la sécheresse et ça impacte notre production agricole. Mais quand les denrées alimentaires nous viennent de la Tanzanie, comme les bananes, les haricots, le sorgho et le maïs, nous nous sentons soulagés. Les échanges commerciaux se portent bien. Personne ne souffre de la faim.
Les Tanzaniens importent au Rwanda des produits essentiellement agricoles. Et en retour, ils attendent autre chose, comme nous l'indiquent Étienne Nakirutimana et Simon Pendo, des commerçants.
Nous leur vendons en retour ce qu'ils n'ont pas comme lieu de cuisine. Et comme ils vivent dans les forêts, nous leur vendons les tôles pour construire ainsi que des houes pour cultiver.
Ce marché nous permet d'écouler les produits que nous cultivons tout près de nous au lieu d'aller vers les marchés tanzaniens très éloignés. C'est pourquoi nous venons dans ce marché au Rwanda. Nous en sommes fiers et nous souhaitons que ça ne s'arrête pas.
Ce point de vente a permis de sceller les liens d'amitié entre les populations rwandaises et tanzaniennes. Comme l'indique M. Pendo, ce citoyen tanzanien qui fréquente ce marché depuis 40 ans.
Les relations entre Rwandais et Tanzaniens de par ce marché sont très excellentes. À notre arrivée, nous sommes bien accueillis et nous nous conformons aux exigences locales en présentant d'abord nos pièces d'identité. Nos échanges se passent en paix et nous n'éprouvons aucune difficulté en chemin.
Ces échanges commerciaux à la frontière entre les deux pays sont perçus par les populations non seulement comme un moyen de garantir la sécurité alimentaire, mais aussi comme un facteur de coexistence pacifique entre les deux voisins. Jean Damascène Manishiwe pour VOA Afrique, Kigali.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout à Lionel Gaïma pour la mise en onde avec l'assistance de Kelvin Fowler à la console. Nanit Salami était à la présentation. Merci également à toute l'équipe de la rédaction de VOA Afrique. Excellente journée. À très bientôt.